jeg går det ille. Oimoim, dosaristo tokia, hette pejarte konuion, amumonate krateronte, exogon heron, hodanidramen irnei visus, ton mene gotrepsas aputon, hos gonoi alloes, naus sine piproeca coromnissi villion iso, trossima cessomenon, tondo cubo dixoma iautis, voica de nostre santa domon pellevion iso, o prodimus doi.
Philippe Brunet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, vous êtes traducteur, notamment traducteur de grec et peut-être plus précisément encore de grec ancien. Vous êtes aède. Qu'est-ce que c'est qu'un aède ?
Un aède, c'est ainsi que les chanteurs, poètes se nommaient dans l'Antiquité. Donc Homère était un aède.
Vous chantez des textes d'Homère dans une forme de prosodie qui est à la limite entre le parler et le chanter. Comment tirez-vous cette mélodie ? Est-ce qu'elle est présente dans le texte ? Est-ce que vous l'improvisez ?
Alors on a la chance que les Grecs nous ont transmis l'Iliade d'Homère, enfin, les textes de manière comme ça écrite sur des manuscrits. Et ils ont précisé comment la voix devait partir, devait monter à certains endroits. Ça s'appelle les accents. Donc on a comme une espèce de notation solfégique, en quelque sorte, qui nous permet de nous inspirer et de lancer le texte.
Autica garto iepita met hector apot mos etoimus. Tende megoctesas prosepe podas ocus achilleus. Autica tetnaien epei ocare melon heteroi, ctein nomenoi epamunai, homen malatellot ipatres, eptitmo.
On entend au cours de cette interview quelques extraits d'un chant d'Homère, précisément tiré de l'Iliade. C'est le chant 18 au cours duquel Achille apprend la mort de son ami Patrocle. Peut-être deux mots pour rappeler l'Iliade, le contexte de l'Iliade, la guerre des Grecs contre les Troyens.
Voilà, et c'est la guerre et en même temps ça n'est pas la prise de Troie, c'est un poème très bizarre qui prend à rebours un peu tout le mythe, puisqu'on y raconte en fait dans cette épopée comment les Achéens, les Grecs disons, sont pères de la guerre suite à la défection d'Achille. En fait, Achille se retire du combat, Achille en colère contre Agamemnon pour une sombre histoire de fille et d'honneur évidemment. Et donc du coup on raconte comment les Troyens vont prendre le pas, vont l'emporter sur les Achéens et le repousser presque jusqu'au bord de la mer. C'est vraiment le premier poème de notre littérature européenne.
Alors une littérature qu'on peut dire épique, hein, je crois que c'est ça, le terme correspond, de grandes batailles, de grandes aventures, un grand souffle, mais aussi parfois un grand humour et une capacité de rire de soi, de cette forme même du texte épique, avec un autre texte du même auteur, Homère, un texte qui s'appelle « La Batrachomyomachie ». Je te laisse, Philippe Brunet, nous dire de quoi il est question.
« La Batrachomyomachie », c'est la tradition d'Homère, revue à la mode, sur le mode parodique. Et donc, c'est la parodie, c'est le même mot, la même racine que aède. C'est encore du chant. C'est encore la voix, donc c'est encore l'épopée. C'est-à-dire, épos signifie la voix. Et c'est le combat des rats et des grenouilles. Donc voilà, c'est une petite fable animalière, à la manière d'Ésope, dans le style, dans le grand style homérique, avec les noms, les patronymes, le fils de, les épithètes. Mais bon, les uns sont mangeurs de poireaux, et les autres grignoteurs de fromage.
Et le début de l'histoire, c'est le roi des rats monte sur le dos du roi des grenouilles et s'en va faire un tour sur un lac, passe un serpent, le roi des rats se noie, on accuse le roi des grenouilles de l'avoir noyé sciemment et la guerre commence comme ça. C'est con la guerre.
Eh oui, eh oui. Mais bon, heureusement, à la fin, les crabes interviendront pour pour, dans la bataille, pour, envoyé par Zeus, parce que les dieux sont là aussi, les dieux restent les dieux, même avec les grenouilles.
Alors un texte drôle évidemment, plein d'humour, mais ça ne l'empêche pas de respecter une poésie très précise, très exacte. Tu as évoqué tout à l'heure ces accents qui permettent d'en sortir une mélodie, mais il y a aussi une métrique très très exacte, l'hexamètre dactylique. Qu'est-ce que c'est qu'un hexamètre dactylique ?
Alors c'est le grand vers de l'épopée, c'est le vers d'Homère et celui qui s'est transmis pendant toute l'époque de la littérature grecque et encore au-delà, qui a été imité par les latins, et puis ensuite à la Renaissance, en Europe, il y a des gens qui ont voulu imiter ce vers dans les langues, dans le français, dans l'italien, dans l'allemand. Il se trouve que depuis quelques années, il y a un certain nombre de traducteurs en langue française qui traduisent les textes de cette manière-là. André Markovitch l'a fait pour Catulle, je l'ai fait pour Hésiode, pour Sappho, pour la Batrachomyomachie, et puis bon, maintenant j'ai terminé l'Iliade et... avec des aèdes, on travaille pour dire, pour redonner voix en français, tout en ayant la possibilité de rythmer aussi bien en français qu'en grec.
Dire et redonner voix, en effet, une nécessité. Je crois qu'aujourd'hui, le nombre des gens qui savent lire le grec ancien doit être relativement réduit. Et il y a donc une nécessité de passer ces textes, leur qualité, leur souffle, leur qualité, y compris musicale, auprès d'un large public. Je crois d'ailleurs que tu es l'animateur d'un festival à Paris qui s'appelle les Dionysies.
Voilà, c'est une chose qu'on a créée il y a 4 ans avec la comédienne Dido Likoudis. On crée un lieu, un espace de rencontre pour différentes formes d'expression liées à l'Antiquité. Et notamment, alors le thème de cette année, c'est les langues sacrées et interdites. Peut-être que le grec et le latin sont en passe de devenir des langues interdites puisqu'on n'a plus le droit de les enseigner, que les élèves n'ont plus le droit de les prendre en option, ou alors s'ils le veulent, il faut vraiment qu'ils fassent tous les efforts. Il faut que l'établissement encourage extrêmement les professeurs. Et donc c'est une situation très difficile aujourd'hui pour les langues anciennes. Mais paradoxalement, donc, ces langues qui étaient dominantes culturellement, qui portaient tout l'humanisme et toute notre tradition littéraire et pédagogique, sont devenues beaucoup plus marginales que le rap, le slam et l'expression, les autres expressions urbaines aujourd'hui.
Toutes les formes d'expression ont droit de citer.
Même le latin, merci.
Pourquoi pas ? À côté, pas plus, pas moins. Peut-être je te propose pour conclure cet entretien quelques mots, quelques extraits de cette Batrachomyomachie. Évidemment, à Radio Grenouille, on y est particulièrement attaché, la Batrachomyomachie.
Jadis, un rat altéré qui fuyait une altière belette laissait tremper ses moustaches non loin dans l'eau d'une mare et goûtait la douceur du courant. Un charmant Polyphème, ami de l'eau, l'aperçut et lui adressa ses paroles. « Noble étranger, qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton père ? Parle vrai, de peur que je n'entrevoie tes mensonges. Si je te sais, ami, je te conduirai dans mon gîte et t'offrirai des présents d'amitié, nombreux, magnifiques. Je suis le roi Maxiguâtre. Et par ce grand marécage, suis honoré des grenouilles, sur qui je règne à toute heure, car mon père Pelé m'a nourri. Assoucieuse de l'onde, il s'est uni d'amour sur les rives éridaniennes. Je te découvre beau et vaillant, supérieur à tout autre, roi qui porte le sceptre et fantassin en bataille, à coup sûr. Expose-moi donc au plus vite ta race. Rogne Quignon lui parle à son tour et lui dit ces paroles. Pourquoi chercher à connaître ma race ? Elle est ténébreuse, chez tous les dieux et les hommes, et uranien volatile. Rogne Quignon, tel est mon nom. Celui de mon père est Ronge-Croûte, guerrier au grand cœur, et celui de ma mère, Lèche-Meule, fille de Ronge-Jambon, son Altesse. Dans une hutte, elle m'enfanta et m'offrit en pâture noix et figues et nourritures variées et diverses. Pourquoi te faire un ami dont les mœurs sont aussi dissemblables ?